de 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons à nous intéresser au Moyen-Âge, à Cordes, et cette fois nous continuons toujours dans le domaine religieux, puisque c'est un peu le thème de ces quelques mois qui viennent, enfin quelques mois, je ne sais pas, on verra. Nous avons parlé la dernière fois du sentiment religieux en général, donne une dimension à l'être humain, que ce soit à travers le lieu, à travers le temps. Et aujourd'hui, nous allons évoquer je vous propose d'évoquer quelque chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, ou fait qu'on n'y pense pas parce que c'est tellement commun, c'est l'influence des édifices religieux sur notre vie religieuse, sur la vie des gens, etc. Alors, au Moyen-Âge, c'était extrêmement important. Bien sûr, nous, aujourd'hui, nous vivons dans un pays cordé, ou en général, quelque part, où il y a autour de nous des tas d'églises, des bâtiments. Quelquefois, elles sont ouvertes, très souvent, elles sont fermées. Parfois, c'est des cathédrales splendides comme Sainte-Cécile à Albi. Parfois, c'est des petites chapelles de rien du tout. Quelquefois, ce sont des ruines. Abandonné, quelquefois ça a été vendu et des gens y habitent. Mais oui, on est habitué à une vision de l'Église en tant que bâtiment qui est quand même, à mon avis, assez différente de ce que c'était pour les gens du Moyen-Âge. Et il faut nous replonger un peu dans l'histoire de ces bâtiments, ou plus exactement dans l'histoire de ce bâtiment que nous appelons une église, pour essayer de mieux comprendre ce qu'était l'ambiance du XIIIe siècle. Parce que nous sommes toujours, évidemment, autour du XIIIe siècle, de la fondation de Cordes, pour nous préparer à 2022. On sait, on se rappelle, que tout l'ancien territoire qui formait l'Empire de Charlemagne, donc très vaste, etc., avait une caractéristique, c'est qu'il était divisé, du point de vue politique, bien sûr, mais il était divisé du point de vue religieux en ce qu'on appelait à l'époque des diocèses, c'est-à-dire, l'équivalent de département, vous voyez. Et ces territoires étaient également divisés, plus ou moins, en paroisses, c'est-à-dire des étendues, certaines très grandes, d'autres pas très grandes, et qui avaient une... Si on peut dire une caractéristique, c'est que elles étaient, c'était des territoires qui se trouvaient autour d'un bâtiment qu'on appelait ou qu'on appelle aujourd'hui l'église. Alors c'est cette histoire-là qu'il est bon de nous rappeler un peu, parce que au point de départ, ce n'est pas un curé qui décide ou un évêque qui décide de faire une église, pas du tout. Au point de départ, avant Charlemagne, il y a des gens qui enterrent leurs parents quelque part. Ça, on sait que c'est même au temps de la préhistoire, on retrouve des lieux comme cela, qu'on ne peut pas appeler à proprement parler des cimetières, enfin on les appelle comme ça aujourd'hui, mais c'était des endroits où les paysans de la région, les 10, 15 familles d'un hameau qui étaient là, se retrouvaient pour enterrer le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, enfin, un mort de la famille. C'était donc un lieu de rassemblement, puisque des morts, il y en a tout le temps, c'était inéluctable. Et donc, ces rassemblements de la population autour des morts était plus ou moins important selon la famille, était plus ou moins fréquent aussi. Et progressivement, ils ont amené les gens à se protéger, si on peut dire, du temps. du mauvais temps quand il pleut, quand il y a un orage subitement, du soleil parce que quand ça cogne un peu comme en ce moment par exemple, et on est content d'avoir un moment à l'ombre, surtout quand on se retrouve pour passer un moment à discuter, etc., se rappeler les anciens, vous savez, tout ce qu'il y a quand on fait un enterrement. Et donc, progressivement, dans ces terrains où il y avait les tombes des anciens, il n'y avait pas de tombe au sens d'aujourd'hui, où on a une pierre tombale, on a des choses. Non, on faisait un trou, on mettait le défunt dedans, on le recouvrait, et puis on marchait dessus, on vivait dessus, les troupeaux venaient paître l'herbe de l'endroit. Vous voyez, c'était simplement un lieu, comme, jusqu'à un certain point, extérieurement parlant, comme un autre. Mais donc, il y a eu petit à petit un signe qui était cette cabane, ce toit ou cette cabane, pour s'abriter un peu, qui était évidemment en bois. Voilà, je parle au temps des 6, 7, 8e siècle. Oui. Mais progressivement, évidemment, le nombre des paroissiens, le nombre des chrétiens qui se rassemblent pour ces enterrements, pour ça se grandit un peu, parce que la population va en augmentant. Il y a également une amélioration des conditions de vie, donc on est un peu plus riche et on a envie d'être un peu plus à l'aise. Et à la place de simple toit en branche, eh bien, on va mettre petit à petit une vraie cabane avec des murs. Et puis même on arrivera certains endroits à se dire ça vaut la peine d'avoir des murs en pierre ou en torchis, disons plus exactement. Bref, d'avoir une maison. Mais vous voyez, ce qui est important de se rendre compte, c'est que cette maison, ce sont les gens du coin qui ont décidé de faire cela. Ça ne vient pas de l'extérieur. Elle est née, en quelque sorte, de la communauté qui était là, communauté entre guillemets, et de ce groupe de gens qui étaient là, mais qui étaient rassemblés pour une raison, enfin, pour deux raisons, mais qui n'en faisaient qu'une, c'est-à-dire leur lien avec ces personnes mortes, mais que l'on considérait toujours comme membres de la communauté. Et même, on avait un peu le sentiment, quand on est chrétien, on les retrouverait un jour, au moment de la mort, à notre tour, on rejoindrait cette communauté. Donc il y a eu, à un moment donné, il y a eu à ces époques-là, aux alentours donc du début du Moyen-Âge, hein, vers le 10e, 11e siècle, on avait comme ça donc, à côté ou autour des cimetières, un lieu de rassemblement qui était le lieu de la maison, qui était une maison du peuple, bien sûr, le lieu des gens, mais qui était également une maison qui était un peu religieuse, qui par la force des choses était consacrée à Dieu, à la religion, et c'est pour ça qu'on l'appelait souvent la maison Dieu. On va s'arrêter une seconde avant de continuer.
CFM, Normidie-Pyrénées, la voix des pays au son du rock.
2022, Michel Bonnet. Donc, dans ces endroits qu'on pourrait dire presque les villages des morts, ces endroits, ces cimetières, on a pris l'habitude d'avoir un bâtiment en bois, en dur, peu importe. Et évidemment, quand on se rassemble régulièrement, il y a quelqu'un qui, en quelque sorte, devient naturellement un peu l'animateur. Parfois, il peut être nommé quand il s'agit de la religion, hein. Par un évêque, par un voisin, un curé voisin. Et donc, il vient là pour ce bâtiment, non seulement pour les enterrements, mais chaque fois qu'il y a un rassemblement important pour un baptême, parce que on est obligé de faire un lien entre le nouveau-né et la communauté qui est là, également les mariages, parce qu'on sait que ça va influencer la communauté, que c'est une fête de la communauté. Et donc, quand on arrive au moment de la fondation de Cordes, ce qui nous intéresse, donc au XIIIe siècle, on peut dire que ce bâtiment église est vraiment devenu à la fois la maison du peuple et la maison de Dieu ou la maison de la communauté chrétienne. Oui. Donc, c'est un lieu où on peut comprendre ça quand on se rassemble régulièrement à plusieurs dans un même lieu, qu'on parle, qu'on se met au courant de ce qui se passe, etc. Le lieu influence la communauté. Le lieu, c'est l'endroit où, parce qu'on est ensemble dans la même maison, et que cette maison, c'est celle de nos ancêtres, ben, plus ou moins, à cause du cimetière, hein, et c'est la maison où on est relié par une foi dans un même Dieu que l'on considère comme le Père de l'humanité, le Père de la famille, le Père de chacun de nous, celui qui donne la vie, et qui donne la vie déjà maintenant sur terre, et puis qui va donner la vie éternelle ensuite, ou la vie avec Dieu. Voilà, donc on est là très influencé par cette présence dans le lieu. Il faut se rendre aussi compte, nous, quand on voit une église, habituellement, surtout, disons, dans le temps moderne, on a des églises qui sont assez grandes, même. L'église de Cordes est quand même assez grande, et à plus forte raison si on va à la cathédrale, à Albi, oui, on a l'habitude de voir d'assez grands bâtiments. Mais au Moyen-Âge, et à l'époque de la fondation de Cordes, il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à des petits bâtiments, des petites chapelles, je dirais, qui sont un peu sympathiques par leur petitesse. Vous voyez, par exemple, il faut penser à ce qu'on ressent quand on va, mettons, à Saint-Jean-de-Mordagne. Vous voyez, à la petite chapelle de Saint-Jean-là, ou même à la chapelle de Saint-Martin au Tsarmaz. Vous voyez, c'est toute petite chapelle. Il n'y a même pas des fois de fenêtre, ou juste une petite fenêtre. Et on s'y sent, je dirais, un peu en sécurité. Enfin, c'est très sympathique. C'est petit, on est en milieu rural. Ça n'écrase pas. C'est pas du tout la même chose lorsqu'on va dans une cathédrale. Vous voyez, donc il faut faire attention à ne pas confondre ce sentiment qu'on a vis-à-vis de la chapelle ou l'église de la petite communauté qui est là. C'est différent de d'autres grandes églises qui ne sont pas nées en quelque sorte de la communauté. Ça, c'est une première sorte d'église en tant que bâtiment. Mais il y a eu un développement également au cours des siècles de ces époques, à l'époque après Charlemagne, entre Charlemagne et l'époque qui nous intéresse, on a une deuxième forme d'apparition des églises. Pas seulement qui sont nées du rassemblement de la communauté sur un lieu où on ensevelit les morts, mais une église qui est née par la volonté d'une autorité. C'est-à-dire que, pour une raison ou pour une autre, un évêque, qui est, du point de vue religieux, le patron d'un territoire, et qui est reconnu à la fois par l'ensemble des évêques, l'ensemble de l'église, et par le gouvernement également au point de vue politique, que ce soit l'empereur, le comte, un roi, etc. Donc, un responsable décide d'implanter un lieu de rassemblement, c'est-à-dire donc ce qu'on dirait aujourd'hui un centre paroissial dans un lieu donné. Dire voilà, là, pourquoi ? Bien parce que il y a quelqu'un de très réputé, on irait aujourd'hui une sainte personne, etc., qui a vécu là, on ne veut pas l'oublier, et les gens ont l'habitude de se retrouver là, ou bien parce que depuis les temps anciens, il y avait un temple païen avec les mots d'aujourd'hui, un temple qui rappelait le paganisme, la religion d'autrefois, et pour supprimer ça, parce que les gens avaient l'habitude, avait encore des superstitions et croyait qu'il y avait encore des forces divines qui étaient là. Donc, pour supplanter cela, on décidait de créer un centre paroissial, une église, et où, très souvent aussi, tout simplement, parce que c'était un lieu où les gens passaient obligatoirement. Par exemple, pour traverser une rivière, il y avait un gué, et donc il y avait des gens qui passaient, on se rassemblait, on s'attendait les uns les autres, on faisait le seigneur du coin quelquefois où quelqu'un payait des taxes ou un péage pour traverser la rivière, des choses de ce genre-là, qui un croisement de route important, ou bien le souvenir d'un événement important parce que il y avait eu un accident ou parce que on avait rencontré deux comtes s'étaient rencontrés, ça avait été une fête, voilà. Bref, c'est une autorité religieuse qui, d'en haut en quelque sorte, de dessus, décide que à cet endroit-là, les gens vont se rassembler et donc fait bâtir une église. Automatiquement, ça va de soi, c'est que autour de cette église, il y a des gens qui vont se rassembler parce que c'est plus facile pour eux de bâtir une maison ou une cabane autour de l'église, et surtout que l'évêque en question ou l'autorité en question a demandé aux gens de venir, qu'ils auraient des avantages à être là, etc. Et donc, on voit des églises qui deviennent des centres de communauté par décision d'une autorité. On voit encore aujourd'hui beaucoup de petits villages, comme ça, vous en connaissez tous, qui sont en quelque sorte bâtis en cercle autour de l'église. Au milieu, il y a l'église et une place devant l'église, et autour, les maisons sont en cercle, une rangée, deux rangées, trois rangées. Quand on regarde les cartes, quand on regarde le cadastre, ça se voit très bien. Alors on comprend, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, qu'on comprend que les relations qu'il y a entre les gens qui vivent là, les chrétiens, qui vivent dans ces paroisses faites par l'autorité et autour d'une église, n'ont pas tout à fait les mêmes relations avec l'autorité, avec le curé ou le prêtre qui est chargé de ça, pas tout à fait les mêmes relations que dans le cas précédent où ce sont eux qui ont bâti une maison, qui petit à petit ont formé une communauté. Et donc on a comme ça un christianisme un peu polyvalent, un peu différent qui s'installe dans ces territoires. Petit à petit, évidemment, l'église, le bâtiment va être un peu plus beau, un peu plus grand, parfois on va vouloir le fortifier, parfois on va y mettre un clocher, parfois on va y mettre, dans le clocher on mettra des cloches, vous voyez, donc ça crée de suite une relation différente, une relation où il y a une certaine emprise de l'autorité religieuse sur les chrétiens. Je ne parle pas des quêtes, des taxes, etc. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. And give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous avons évoqué donc deux formes de création des communautés chrétiennes autour d'un bâtiment ou à l'occasion d'un bâtiment, que ce soit à travers l'implantation d'un cimetière, ou que ce soit à travers l'implantation d'une église par décision de l'autorité religieuse. C'est un rassemblement qui est là. C'est évident que lorsque l'autorité religieuse décide qu'elle va créer un centre, par exemple, mettons, comme ça a été le cas ici à Vendrac, on a créé de toutes pièces un centre, et petit à petit, il y a des petites églises, des chapelles, des communautés qui ont rayonné autour et qui sont devenus en quelque sorte des sous-traitants, des subalternes de cette église centrale. Un peu comme aujourd'hui, on a un chef-lieu de canton qui regroupe autour une communauté de communes. Voilà. Ça, on a eu donc deux formes d'église. Mais il y a une troisième forme d'apparition des églises qui, elle aussi, va créer une troisième forme de communauté chrétienne différente. Je dis ça parce que c'est important de se rendre compte de la diversité, de la polyvalence de ces communautés qui ne sont pas toutes uniformes comme aujourd'hui où on a, évidemment, il y a le Vatican, il y a tout le système Église qui est très centralisé et qui est unique partout, le même catéchisme, etc., etc. Là, c'est en formation, mais ce n'est pas encore le cas. Donc maintenant, abordons une troisième façon de naître qu'il y a pour les Églises. C'est lorsque un seigneur au sens politique du mot, un chevalier, un seigneur qui est chargé avec ses armes de faire régner la paix et la justice dans un territoire donné, qui lui dépend évidemment d'un suzerain supérieur, que ce soit un comte, un vicomte, un roi, peu importe. Ce qui se passe, c'est que très souvent, ces seigneurs ont... Pas très souvent, ils ont toujours une maison à eux, qu'on a une maison un peu plus grande peut-être que les autres, une maison un peu forte. Parfois il y a une tour, parfois il y a même un château. Et ça deviendra progressivement des châteaux, surtout au XIIe siècle. Et donc, autour de leur maison, ils ont des paysans qui vont venir parce qu'ils font travailler ces paysans. Et que donc, ils ont envie de les avoir sous la main, que ce soit pour les faire bosser n'importe quand, chaque fois qu'ils en ont besoin, que ce soit simplement pour les contrôler, etc. Et donc, il y a comme ça des villages qui se créent, des villages ou des hameaux, des lieux de rassemblement, qui se créent autour du Seigneur, mais pas du Seigneur en tant que religieux, du Seigneur en tant que politique. Vous voyez ? Et là, les gens vivent en quelque sorte à l'ombre du château. On en trouve aussi des traces aujourd'hui. Il y a des tas d'endroits où on voit le château et en dessous, vous voyez Millars par exemple, c'est évident que le château est là et en dessous il y a les maisons du village. Et cette agglomération, elle va grandir petit à petit. Et évidemment, comme tout le monde est chrétien, on s'en souvient, on le sait, et à l'époque, à partir de Charlemagne, on ne peut pas imaginer quelqu'un n'étant pas baptisé, n'étant pas reconnu chrétien. Si, il y a des juifs, il y a des sarrasins par-ci, par-là. Bon, mais ça, c'est des gens qui sont en dehors de la communauté, qui ne sont pas considérés comme des êtres humains normaux, qui n'ont pas les droits de tous les autres, vous voyez. Mais quelqu'un de normal, donc il est automatiquement chrétien. Et donc, le Seigneur, naturellement, lui aussi, il va avoir envie d'avoir un lieu de prière et donc il va construire ou faire construire, il va décider qu'il y aura une petite église, une chapelle dans son village à côté du château. Tenez, on en a un exemple à Mouziès-Panens par exemple. Je parle pas de la grande église de Mouziès, l'église paroissiale qui est en dessous du village. Là, mais la petite chapelle qui est à côté du château, vous voyez, c'est typique d'une petite église de cette époque-là qui devient l'église où se réunit la communauté chrétienne, mais autour du Seigneur, avec le Seigneur. Et souvent, ce qui se passe, on s'en doute parce que c'est tout à fait humain, le Seigneur est assez puissant pour influencer le choix du curé. Soit que ça l'arrange, parce que pour lui, enseigner l'obéissance, c'est toujours payant, vous voyez. Surtout, ce qui se passe, c'est que dans le Midi, notamment, on a déjà évoqué cela, à cause des héritages, les enfants, quand il y avait des garçons cadets, les fils cadets, il fallait les caser quelque part, et le Seigneur, souvent, se débrouillait pour mettre un des fils cadets responsable de la paroisse, ce qui lui donnait des atouts supplémentaires, une façon de vivre, etc. Voilà. Et donc, il y a comme cela des liens très étroits dans certains endroits qui se sont créés entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux, entre le pouvoir du Seigneur. Voilà. Et vous vous en doutez, la vie chrétienne n'est pas du tout la même selon qu'on est dans une ou l'autre de ces formes de paroisse. Voilà donc une troisième forme de communauté chrétienne qui est apparue. Et là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on en a une quatrième forme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Non, c'est que justement, on est dans une époque où il y a encore une énorme polyvalence. Et on est obligé, nous, aujourd'hui, pour transformer notre idée, notre vision sur la vision que l'on a du Moyen-Âge, de tenir compte de cela. À la fois d'un côté, de cette unanimité pour dire que Dieu existe, que la vie est religieuse, que c'est important, et en même temps, cette forme pratique de vivre cette religiosité, cette religion. Et c'est comme ça que je voudrais évoquer, surtout ici en Pays Cordé, si on peut dire, une quatrième forme d'apparition du bâtiment église. La quatrième forme, c'est le monastère. Par-ci, par-là, un peu partout, les chrétiens, un certain nombre de chrétiens, ont voulu vivre la vie chrétienne d'une façon un peu plus intense, un peu plus particulière, avec davantage d'austérité peut-être, davantage de prière, davantage de familiarité aussi entre les membres. Bref, on a eu comme ça donc des cellules de vie chrétienne qui sont devenues des monastères. Et au XIIe, XIIIe siècle, on avait des monastères qui étaient reliés entre eux et qui formaient des ordres comme les bénédictins, les cisterciens, vous voyez, tous ces grands ordres que on connaît encore aujourd'hui. Bon, certains ont disparu ou à peu près, mais enfin, donc ces ordres monastiques étaient très importants. Et ce qui se passait, c'est que ces moines, automatiquement, la première chose qu'ils faisaient, c'était de construire une maison où ils vivaient ensemble, enfin une maison, une grotte, une cabane, peu importe au début. Mais très vite, ils ont construit donc un bâtiment pour se retrouver pour prier, et puis dans lequel ils dormaient et ils mangeaient, puis petit à petit, ils ont fait un dortoir, ils ont fait un réfectoire, ils ont fait un cloître, enfin, toutes ces abbayes que nous connaissons, qui ont grandi au fur et à mesure de l'histoire, en particulier au XIe, XIIe, XIIIe siècle, ça a été énorme, un développement du monde monastique dont on n'a pas idée aujourd'hui. Et les gens, il y avait des gens qui étaient à proximité de ces monastères, soit parce qu'ils travaillaient, c'était leur lieu à eux. Un monastère s'était implanté d'un côté de la rivière, on habitait de l'autre côté de la rivière, donc on n'était pas loin, vous voyez. Soit que beaucoup de gens travaillaient sur des terres qui appartenaient, qui avaient été données à ces monastères. Et par conséquent, on avait des liens particuliers entre le monastère et puis ces gens autour. Et donc, les gens qui étaient autour formaient une communauté, une paroisse, et automatiquement, ils avaient les mêmes besoins que les chrétiens d'ailleurs, c'est-à-dire de se retrouver entre eux pour discuter, pour prier, pour enterrer leurs morts et faire des fêtes plus ou moins religieuses. Et donc, progressivement, il y a des liens qui se sont créés entre le monastère et la communauté chrétienne. Et très souvent, on a été obligé de poser des contrats, je dirais, entre l'animateur de la communauté chrétienne et le monastère. TFM.
Je suis le cuisinier des mots, des mots, des mots, des mots. Je vais vous la faire, ma démo. C'est plus, je coupe, je chauffe du six boulot. Tout ça sans faire de boulettes. Voilà, c'est ça mon boulot. Je suis le cuisinier des mots. Écoutez-moi bien les lardons. Pour qui voulez faire une chanson, on va tous s'y mettre entre amis. Car plus on est fou, plus y a de riz. D'abord trouver les ingrédients que l'on va mitonner dedans. Un bon sujet qui donne du goût. Bien le choisir sans se prendre le sou. Choubidoubidoubidoua.
Ouais, c'est ça, ouais.
Je suis le cuisinier des mots, des mots, des mots, des mots. Je vais vous la faire, ma démo. J'ai plus, je coupe, je chauffe du ciboulot. Tout ça sans faire de boulettes. Voilà, c'est ça mon boulot. Je suis le cuisinier des mots.
trouver des rimes, c'est pas de la tarte.
Mais moi je vous les sers à la carte.
Nougat, petit pois, chipolata.
On a que l'embarras dans soi.
Comptez bien les pieds sur les doigts avant de les mettre dans le plat.
Faut que leur nombre soit régulier pour obtenir de beaux couplets. Et comme dit la girafe, avoir un beau couplet. On dit de moi que je suis toqué, j'ai la manie des mots démantibulés.
Si tu continues comme ça, on n'y arrivera jamais, Yves.
Allez, vas-y, chop. Allez, chop, chop.
Je suis le cuisinier des mots, des mots, des mots, des mots.
Je vous la ferme des mots.
J'épluche, je roule, je chauffe du ciboulot. Tout ça sans faire de boulet.
Voilà, c'est ça mon boulot. Je suis le cuisinier des mots. Je tranche les mots, je les fais frémir. À chaque refrain, je les fais revenir. Avec une petite sauce mélodie, un bon petit air qui vous ravit.
Et la nuit vous ravit au lit, ravioli.
J'ai usé tous mes ustensiles pour faire saliver vos papilles.
Et les mamilles
pour pas finir en autre boudin. Écoutez bien le mot de la fin.
Et ben moi j'ai plus faim.
Mais nous, si.
Et la cerise sur le gâteau, c'est que la chanson bien cuisinée se resserre à volonté. Avec vous c'est de la grande musique, les yeux. On sent que l'esprit de Mozart est là.
Je suis le cuisinier des mots,
des mots, des mots, des mots.
Je suis le cuisinier des mots, des mots. Je suis le cuisinier des mots. Je suis le cuisinier des mots, des mots.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons à découvrir cette importance de la diversité dans l'Église qui est amenée, ou qui est montrée même, par l'existence des bâtiments. Des bâtiments, disons, qui tournent autour de la chapelle ou de l'Église. Et donc je disais que la quatrième forme, très importante à l'époque de la fondation de Cordes, très importante au XIIIe siècle, c'était le développement de communautés chrétiennes à côté ou autour d'un monastère. Et à ce moment-là, il y avait des ententes qui se passaient entre le responsable du diocèse et puis le père abbé de l'abbaye pour dire, bon, ici, le curé, il n'y en a pas, je n'ai pas de prêtre à mettre à la disposition de ces chrétiens, donc vous êtes au monastère, vous vous en occupez. D'autres endroits, ils nomment un prêtre, mais avec l'obligation d'avoir des relations avec l'abbaye. Ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est que ces abbayes grandissaient, elles étaient très dynamiques. Les moines travaillaient ou faisaient travailler, la terre, et les techniques s'amélioraient, les champs s'agrandissaient. Petit à petit, ces communautés devenaient très riches. Et donc attirer des dons, en quelque sorte, des seigneurs qui se rendaient compte, ou des gens riches qui se rendaient compte que d'un côté, si on voulait avoir des prières régulières pour les morts, ou être protégé par Dieu de façon sérieuse, il valait mieux aller avec les moines qu'avec avec des gens ordinaires, vous voyez, parce qu'ils priaient tous les jours, parce qu'ils savaient prier, etc. Il y avait des règles, vous voyez. Et donc... Ces communautés religieuses sont devenues progressivement riches, riches en termes de territoire, mais de territoire qui n'était pas toujours autour immédiat de l'abbaye. Et c'est comme ça, vous avez quelqu'un qui était à Tonac et qui meurt sans laisser d'héritier. Il a un terrain, il a des terrains, quelques vignes, etc. Il ne sait pas quoi en faire. Il en fait cadeau à l'abbaye de Gaillac en lui disant « bon, mais ça vous appartient ». Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il faut s'occuper de ce terrain à Tonac, par exemple. Et donc là, habituellement, il y a toujours des gens qui y travaillent déjà. Donc l'abbaye va nommer quelqu'un qui sera responsable pour l'abbaye, un membre de la communauté, qui pour l'abbaye sera responsable de ce lieu supplémentaire qu'on appelle, dans le langage d'aujourd'hui, les historiens appellent une grange. Oui. Dans l'église, en fait, comment ça va se passer? C'est que ce bâtiment, qui est donc une grange, qui sert au stockage des produits de cet endroit, que ce soit du grain, que ce soit du blé, etc., que ce soit un troupeau de moutons ou quelques vaches ou autre chose, qui sert également à mettre de côté des outils quand il y en a ou se mettre de côté. Donc, progressivement, ça devient un lieu qui se fortifie, qui grandit, et l'Église appelle ces endroits-là, non pas des abbayes, bien sûr, mais des prieurés. Vous voyez, le nom de prieuré vient de là, on en a partout. Et c'est même annoncé dans certains offices de tourisme, parce que ces prieurés, lorsqu'ils sont éloignés, assez loin de l'abbaye, prennent de l'importance. Normalement, dans la plupart des monastères, on devait avoir la possibilité de faire l'aller-retour entre la grange et le monastère dans la journée. Et donc, vous voyez, quand on ne pouvait pas, à ce moment-là, on créait un prieuré qui était une sorte d'abbaye miniature. Et forcément, si le moine qui était responsable de ce prieuré était doué, était fervent, travailleur, etc., mais petit à petit, il avait avec lui un, deux, trois autres copains, je dirais trois autres moines, et il formait une petite communauté. Et donc, on a eu comme ça des abbayes qui ont essaimé. Oui, l'abbaye de Gaillac, par exemple, entre Gaillac et la Grésigne, elle avait, au XIIIe siècle, au moment de la fondation de Cornes, elle avait une douzaine de prieurés qui dépendaient d'elle. C'est-à-dire, c'est 12, finalement, du point de vue des gens ordinaires, des paysans qui vivaient dans la région, et ça voulait dire qu'il y avait 12 petites abbayes qui étaient là. Vous voyez l'emprise que ça représente sur tous les gens, les prieurés qui dépendent de la même abbaye, ont une culture organisée, enfin, des habitudes, etc. Et on comprend très bien, là aussi, sans, il n'y a pas besoin d'explication, que les relations qu'il y avait automatiquement entre la communauté chrétienne qui vivait autour de l'abbaye ou autour du prieuré, et puis le père abbé ou le moine chargé du prieuré, étaient différentes de celles d'une paroisse, je dirais, ordinaire. Chaque abbaye avait ses habitudes, comme on a les chants que l'on aime plus, tel chant plutôt qu'un autre, telle musique plutôt qu'un autre, des fêtes plus importantes que d'autres. Voilà, il y a comme cela beaucoup de diversité que les abbayes installent. Et ici, dans la région, dans les abbayes aussi, il y avait des grosses différences. Pensons par exemple à l'abbaye de Gaillac, une abbaye traditionnelle, etc. Mais qui était à côté, on avait l'abbaye de Vaour. L'abbaye de Vaour, c'est un monastère, comme à Gaillac, mais un monastère où les moines sont des templiers. C'est-à-dire qu'ils sont à moitié curés, si on peut dire, à moitié moines, et à moitié guerriers. Ce n'est pas du tout le même genre de moines, et c'est bien sûr pas du tout le même genre de relation qu'il y a entre les templiers de Vaour et les chrétiens de la Grésigne ou des alentours, qu'avec les chrétiens qui sont sur, disons, la proximité de Gaillac. On a la même chose avec, par exemple, à Bernac, l'abbaye de Bernac, qui descendait, qui était liée à d'autres grandes abbayes ailleurs, Aurillac, Raissac, etc. On avait à la Capelle Ségala, on avait encore une autre sorte d'abbaye, une petite abbaye, mais qui était tenue par d'autres moines qu'on appelait les hospitaliers, qui là aussi ressemblaient aux templiers, mais n'étaient pas des templiers et n'étaient pas des moines ordinaires. Donc une grande polyvalence, là aussi une grande variété. Voilà ce que je voulais souligner à travers cette émission. Elle donne l'impression d'être peut-être un peu scolaire ou méthodique, mais essayer de faire comprendre, essayer de nous replacer dans l'ambiance d'une religion qui est extrêmement variée, d'un village à un autre, d'une communauté chrétienne à une autre, et où on sent moins la pression qu'on a aujourd'hui. ben, disons les chrétiens aujourd'hui, ont, parce que ça vient d'un centre, exactement comme dans un pays où il y a une politique qui se diffuse sur l'ensemble du territoire. Mais voilà, cette diversité, quand même, elle avait un but qui était le même pour tout le monde, c'est de rendre la vie chrétienne plus fervente, la communauté plus soudée les unes aux autres, et petit à petit, eh bien, on a évolué comme ça vers une vie, la vie chrétienne que nous connaissons. Voilà, c'était donc une évocation de la communauté chrétienne à travers ces bâtiments que nous voyons aujourd'hui, qui pour nous sont des pierres parfois anciennes, mais qui ont été des lieux de vie communautaire. Je vous remercie. C'était Cordes 2022 avec Michel Bonnet.
Soon. your saver, you ring it, the dog a bone. Empty out the register and call me on the phone. No, no, restless soul. Water in the air and an ashtray in my mouth. The bottom of the bottle, I ain't never getting out. Take something for my head again, I'll go another round. Oh, no, restless soul. Is regrettable and mostly in your head. Waiting for a letter, but my mailman's dead. I'm looking in the mirror and my eyes gone red. I'm watching where I'm walking, but not looking where I tread. Oh no, a restless soul. Well, I want you to know what I don't.